Merci à vous de m'avoir sollicité. Je dois dire que j'en suis heureuse, étant donné mon intérêt pour cette question. Et puis, je suis heureuse mais de retrouver ici un des professeurs engagés, dont des personnes engagées dans ce thème complexe et difficile, dont je connais un certain nombre. Je regarde le temps, il est entre moins quart et moins dix, donc on a 30 minutes. Comme je n'ai pas voulu, ça me paraît une aberration, vous parler des œuvres plastiques sans vous montrer des images, on va voir des représentations de tableaux, donc ça risque d'être un peu long, donc je demande, malgré les frustrations, la mienne et j'espère celle des auditeurs, eh bien qu'on me coupe quand mon temps de parole sera achevé. Alors quelques mots d'introduction, puis ensuite je vous dirai comment j'ai construit mon intervention. Bon, la prise en compte systématique des œuvres artistiques est récente pour ce thème de la transmission de la Shoah. Il a été plus facile d'anticiper avec la littérature dont nous parlera Madame Diane Rosenman, mais c'est plus complexe de s'appuyer sur des œuvres plastiques pour montrer en quoi elles contribuent à une efficacité et à une innovation en matière d'approche de la Shoah. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas vrai seulement pour le thème de la Shoah, mais c'est vrai d'une manière générale pour tous les sujets que l'on aborde. Comment, je pose la question là aux gens spécialistes de formation que vous êtes tous ici, comment interpréter la création des formes, donc cinéma, peinture, sculpture, dessin, non pas comme une illustration d'idées, ou comme l'illustration de thèmes et de moments historiques, mais en tant que les formes qui permettent une appropriation universelle. Ce qui est tout à fait important et ce qui est difficile, ce qu'il faut, disons, ce vers quoi il faut orienter les enseignants, c'est cela. Cette appropriation des formes comme langage universel. Alors, je suis heureuse d'être là parce que j'ai à l'occasion, vous vous souvenez du problème de l'enseignement de la Shoah en CM2, j'ai fait avec un certain nombre de partenaires et toutes les grandes institutions éducatives, j'ai fait donc ce travail Mémoire et histoire de la Shoah en CM2. Qui est d'ailleurs sur le site, je pense que c'est toujours sur le site de l'Éducation nationale, et que sur les trois chapitres, le premier c'était mémoire et histoire, le deuxième c'était les enjeux citoyens, et le troisième c'était art et transmission. Et c'était, je crois, la première fois à ma connaissance où, dans le système scolaire, on mettait cet objectif vraiment en lumière à ce point. Alors, on a aussi publié au CNDP, je ne sais pas si vous le connaissez, Art et littérature de la Shoah. Et puis ensuite, ça c'était en 2008, en 2009, j'ai fait une mission importante à Yad Vashem, justement sur cet aspect-là. Et j'ai fait un rapport qui était un rapport assez consistant, en tout cas du point de vue du volume, à la suite de quoi j'ai reçu une lettre des responsables de Yad Vashem qui me disaient qu'ils approuvaient totalement cet objectif. Je proposais qu'on fasse un séminaire avec égalité du 20 à 25 professeurs de chaque côté qui travaillent justement sur le problème des œuvres plastiques parce que c'était un manque aussi bien en France qu'en Israël. Et Yad Vashem faisait des propositions très généreuses. Bon, le ministère de l'Éducation nationale, qui s'était beaucoup investi en 2008, n'a pas suivi directement, mais je suis heureuse de voir que l'INRP reprend complètement les conclusions de ce rapport. Alors, le problème de l'art sur le thème de la Shoah. Bon, la force de l'art est attestée dans les camps, il en sera question tout à l'heure, par les déportés eux-mêmes. Primo Levi et Dante, un petit livre que vous ne connaissez peut-être pas, qui a été publié aux éditions de l'Échoppe par un ancien étudiant à moi, qui s'appelle « La peinture à Dora », hein, édition de l'Échoppe, où le grand mathématicien Le Lyonnais, c'est une expérience extraordinaire, raconte comment, abruti de coups et de rafles, au moment de l'appel, il regarde le ciel et tout d'un coup l'horizon le fait revivre véritablement et il décide, avec un jeune détenu qu'il connaît, avec qui il a travaillé déjà sur les thèmes des mathématiques, la physique et chimie, il décide de faire une histoire de la peinture pour ce jeune homme qui ne connaît rien. Et comment faire une histoire de la peinture dans le camp. Et je vous recommande la lecture de ce petit livre. Le Lyonnais, qui est un grand amateur, se souvient absolument des détails, des moindres tableaux, hein, le chancelier Rollin et la Vierge, etc. Et il décrit les tableaux à ce jeune homme qui ne les connaissait pas. Et il dit, à la fin, il en savait plus sur les tableaux que les experts eux-mêmes. C'est vraiment un très beau, très très beau petit livre, très très convaincant. Mais donc ça vous sera présenté tout à l'heure dans un autre exposé. Je crois qu'il est nécessaire aussi, quand on pointe l'importance des œuvres d'art, c'est de se situer dans le contexte historique. De rappeler d'abord qu'après la Seconde Guerre mondiale, s'est posée la question de la légitimité et de la possibilité de la création. Comment, en effet, et pour les peintres, comment, en effet, figurer l'homme en continuité avec ce qu'on venait de vivre, c'est-à-dire une humanité à jamais profanée et défigurée, et le traitement en masse dans les camps de concentration et plus encore d'extermination, le traitement en masse de cadavres errants qui n'étaient ni morts ni vivants. C'est une rupture, bien entendu, fondamentale et qui pose la question de la figuration. Et moi, les peintres que j'ai retenus, les trois dont je voudrais vous parler, posent cette question de la figuration humaine au moment ou après la Shoah. Donc c'est une réflexion, hein. On va y aller sur la pointe des pieds, puis on est obligé quelquefois dans des interventions que je veux toujours moi aussi orales que possible, hein, on est obligé de dire des choses quelquefois plus prononcées peut-être. C'est une relation extrêmement complexe, c'est une relation complexe aussi bien du point de vue théorique que du point de vue esthétique, car chaque artiste est singulier et chaque œuvre est irréductible à celle de ses voisins. Elle est irréductible aussi à des impératifs intellectuels ou moraux. Et ça, on essaiera de le voir à travers quelques œuvres. D'autre part, un point important aujourd'hui, là je parle du contexte, disons, de l'immédiate après-guerre. Aujourd'hui, il faut prendre en compte l'éloignement temporel qui nous sépare maintenant des événements. Au lendemain de la guerre, tout le monde avait été frappé, tout le monde était, disons, en continuité, même si pour la Shoah, il y a eu un refoulement. Parents, grands-parents étaient là pour faire le récit des horreurs de la guerre. Aujourd'hui, nous en sommes à quasiment trois générations après l'expérience vécue et l'expérience, ça j'ai eu beaucoup l'occasion de le dire dans la mission sur l'enseignement de la Shoah en CM2, l'expérience, elle est devenue histoire avec un grand H. C'est-à-dire que c'est très loin. Pensons qu'aucun élève dans le secondaire et bientôt dans le supérieur, aucun élève n'est né avant la chute du mur de Berlin. Pensons que le vécu de tous ces jeunes, c'est une Europe qui est fondée sur l'alliance franco-allemande et que donc l'inconcevable qu'il l'était déjà pour notre génération, l'inconcevable l'est beaucoup plus. Alors, ce qui a joué depuis les années, disons la fin des années 70, les années 80, ce qui a joué un grand rôle, c'est la transmission des témoins. Et ils ont eu, les témoins, il faut les remercier, ont eu une grande importance dans la construction de ce qui est devenu un savoir. Mais, bon, on le dit, les témoignages vont cesser, et, je vous le rappelais, il y a un besoin d'image. Pour une génération qui est très loin de cela, dans une période où les images sont indispensables. Des images, il y en a peu. De la Shoah, à proprement parler, même très peu. Bon, les images qu'il y a, celles du camp de Birkenau, il est besoin qu'on les fasse parler. Alors je ferai une mention ici du film Shoah, infiniment précurseur, où les paysages des camps et les visages ont été filmés avec une telle rigueur, à une telle beauté, que la transmission a commencé à se faire. C'était aussi les premiers témoins, il faut le dire, c'était privilégié. Avec le passage du temps, qu'est-ce qu'il faut ? Fiction, documentaire, je n'entrerai pas dans tous les débats sur l'image qui secoue actuellement le monde des spécialistes. Je dirais que le pouvoir des œuvres, c'est pourquoi, bon, j'ai été aussi professeur de littérature et des arts, c'est pourquoi elle me semble infiniment importante. Les œuvres, elles condensent une émotion personnelle et en même temps, donc un choc, une intuition initiale, et en même temps, elles lui donnent une forme irréfutable qui permet à chacun d'approprier une expérience inatteignable autrement. Ça, c'est vrai de toute œuvre, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit plastique. Ce bouleversement, cette subjectivité complètement transformée et en même temps cette forme universelle trouvée. Ça, c'est une problématique, je dirais, très générale. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu comme choix ? Quelques œuvres, simplement, qui sont attachées à la figure humaine, à la figuration humaine, je vous ai dit pourquoi. J'ai écarté aussi des expériences comme celle de Bruno Schutz, écrivain et peintre qui a vécu lui-même la Shoah, mais qui ne s'est pas consacré à ce thème-là, parce qu'il était préoccupé par une autre thématique. J'ai écarté aussi un très grand peintre actuel, que j'apprécie infiniment, qui est Anselme Kiefer, parce que lui travaille sur tableau immense, travaille sur des paysages qui nous parlent d'Auschwitz, parce qu'ils associent à des paysages recréés, des textes fondamentaux. Mais je n'ai voulu retenir pour cette présentation liminaire que des artistes qui posent de manière distincte la question de la figuration humaine et que quelques expositions événements, il y en a d'autres, nous ont permis de connaître. Alors ces trois peintres, c'est d'abord Félix Nussbaum, dont vous avez une image ici, et Félix Nussbaum qui s'est représenté lui-même à la synagogue d'Osnabrück, le visage du jeune homme. Donc Félix Nussbaum, je vous donnerai ses dates, il est mort en 44. Donc lui, si vous voulez, puisqu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'exposé, l'axe de présentation pour moi, c'est une expérience individuelle exemplaire de l'histoire de la Shoah. Le second exemple, c'est Zoran Musić, le peintre italien, arrêté lui dans son pays en 43 parce que résistant et envoyé en 44 à Dachau. Et oui, on le verra après. On verra après. Donc, et je vous montrerai. Donc, à Dachau, Musić a dessiné au crayon avec les produits qu'il trouvait d'aquarelle. Il a dessiné au péril de sa vie, parce qu'il était très difficile de trouver des matériaux, il fallait se cacher. Et au moment de la libération du camp, il a dessiné comme un fou tous les monceaux de cadavres. Donc Musić, je pourrais dire, là, parce que lui, il était là-bas, c'est une vision de la Shoah. Et le troisième exemple, qui est celui de Christian Boltanski, qui est plus jeune, lui, et qui travaille dans les années 80, et qui est infiniment connu et reconnu maintenant, qui est un cas aussi tout à fait passionnant. Vous voyez, chacun est différent, parce que Boltanski, il a commencé, il n'était pas du tout préoccupé par le thème de la Shoah. Hein, je vous en parlerai. C'était pas cela son orientation. Et il y est venu peu à peu à la fin des années 80. Et bien entendu, là, il n'y a rien de figuratif. Hein, nous sommes très loin de cela. Et on pourrait dire que ce qu'on trouve dans Boltanski, pour simplifier, c'est « quelle mémoire de la Shoah ?» Point d'interrogation. Hein. Donc les trois me paraissent tout à fait intéressants, parce que, et d'une certaine manière complémentaires, parce que leur âge n'est pas le même, leur expérience n'est pas le même, et forcément donc leur point de vue d'entrée n'est pas le même. Alors Félix Nussbaum, il vient d'être révélé dans toute sa dimension, parce qu'on le connaissait mal, par l'exposition qui s'est tenue au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui fait un très gros travail, en matière de lien entre l'art, justement, et la transmission. Tout ce que j'ai ici vient de leur site. Hein, vous pouvez le consulter. Il y a un dossier pédagogique qui est magnifique. Alors lui, il incarne, on peut pas trouver plus exemplaire. 1904 naissance, 1944 sa mort, il incarne de façon totale ce que fut la Shoah. Hein. Quelques mots sur lui, il est peintre, il est donc fait école d'art à Hambourg, puis à Berlin. Il est invité à Rome en 1932, hein, il commence à percer, à être reconnu, et il est surpris à Rome en 1933 par la prise de pouvoir d'Hitler. Et à ce moment-là, on refuse de lui prolonger son titre de séjour et sa bourse à Rome. Et à partir de là, donc 33, Hitler, ouverture du camp de Dachau, il n'y aura jamais de retour en Allemagne pour Nussbaum, et sa vie est une suite d'exil et de rafles. C'est une vie emblématique, emblématique du juif traqué, errant, de la Seconde Guerre mondiale. Il va en Belgique, en France. En Belgique, il sera arrêté à Bruxelles comme Allemand, c'est le cas aussi de beaucoup, et déporté en France comme étranger au camp de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. On aura du peinture là. Et puis ensuite, ce n'est qu'une vie de fuite et de cachette en cachette. Et sur, il sera arrêté le 20 juin 44. Déporté à Auschwitz à partir du camp de Malines, dans le dernier convoi. Ce qui est important, il a vécu cette vie en peintre, c'est-à-dire quelqu'un, un peintre allemand, marqué bien entendu par l'influence des expressionnistes et nouvelle objectivité allemande, des peintres dont vous connaissez certainement des tableaux, Autodix, Georges Gross, Beckmann, tous ceux qui ont constitué l'art dégénéré, hein, et qui fera l'objet d'une exposition en 37. Alors, les thèmes de Nussbaum, mais on va peut-être les voir en feuilletant. Donc, ici, vous avez la synagogue, la synagogue qui est de tout à fait des débuts. C'est avant les événements, je cherche les fiches là, et la question de l'identité qui est centrale dans l'œuvre de Nussbaum, déjà là, vous voyez dans un tableau qui est coloré, qui est la synagogue de sa ville, avec beaucoup d'exactitude, hein, le rabbin, et lui-même, voyez Nussbaum, le visage interrogateur ou interrogatif. Donc, on va passer rapidement, alors, si on peut aller à la suivante, qu'on va voir aussi rapidement. Ça, c'est une sorte, vous voyez, d'adieu à la jeunesse. C'est une carte postale que Nussbaum envoie à ses parents, d'une station... Ah, elle est à l'envers, bon, tordez-vous le cou, de toute façon, on ne va pas rester. 1929, c'est un souvenir du bord de mer, Et donc, souvenir assez monté théâtralement, la carte postale, il envoie à ses parents une carte postale qu'il a faite, et voyez Nussbaum dans l'eau, à l'écart, hein, toujours à l'écart. Bon, passons à... Voilà. Alors ça, bon, vous la voyez peut-être mal, cette toile, c'est une toile essentielle. 1933, destruction. Vous reconnaissez le signe, c'est l'épisode à Rome dont je vous parlais, le Colisée. Vous voyez par rapport au tableau précédent, la couleur sombre, les murs qui commencent à encadrer le tableau. Et on voit mal, mais évidemment, la figure, une figure, ici un couple qui s'étreint. Ça, c'est un tableau. Vraiment, c'est le début de la manière de Nussbaum pour figurer la guerre. Par terre, on les voit mal aussi, des tableaux brisés. C'est les tableaux du peintre. Voilà, c'est aussi un tableau extrêmement important. Alors celui-ci, bon, on va aller vite, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, il est magnifique, magnifique dans la maîtrise des couleurs du graphisme. Ça s'appelle « Le réfugié », 1939. Bon, ça, vous pouvez faire parler vos élèves là-dessus. Voyez, l'espace est complètement clos, juste l'échappée vers l'extérieur, vers des arbres dépouillés, le globe sur lequel l'ombre s'étend, des murs, l'attitude. Bon, on passe, hélas, on pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est pas la peine. Ça, bon, la synagogue, alors la synagogue dans le camp, donc ça serait à Saint-Cyprien, puisque c'est le seul camp où il soit allé, c'est 1940. Bon, on ne se souvient pas qu'il y ait eu une synagogue dans le camp de Saint-Cyprien, mais vous voyez ici ces rabbins qui célèbrent le rituel, un tableau dans l'opposition, le noir et le blanc, et quelqu'un à l'extérieur, enveloppé là, qui pourrait être Nussbaum lui-même. Bon, je passe, des os, des barbelés, enfin. Voilà, un groupe là qui s'intitule celui-ci « La tempête ou les exilés ». La tempête, vous voyez pourquoi, vous voyez le paysage, ces arbres, l'arbre duquel pend une corde, sinistrement, le groupement des personnages magnifique. Dans la grande tradition de la peinture, on peut dire que ça, par rapport à la peinture religieuse, c'est une sorte de Pietà. Vous voyez, c'est la figure canonique, la figure canonique du groupe, avec les expressions très différentes des personnages. Je ne sais pas si vous le voyez bien. La terreur, l'angoisse, la femme qui s'est dépouillée de sa chemise pour essuyer les larmes de l'autre, la compassion. C'est absolument magnifique. L'enfant vieilli au premier plan, qui souffle une fleur de pissenlit. Bon, c'est sinistre. Et le personnage de Nussbaum, vous voyez, derrière la femme qui n'a plus sa chemise, il y a un petit visage, vous voyez, et c'est celui de Nussbaum. Qui suis-je dans tout cela ? Le tableau suivant. Ah oui, alors, si on peut le redresser... Oh, il est terrible, celui-là. L'autoportrait à la clé. Vous voyez ce personnage tout vieilli, tout ridé, avec... Alors, c'est une dimension aussi qui est empruntée de Georges Grosz, d'Autodix, le chapeau de clown. Vous voyez, le grotesque. Ça, c'est la dimension d'humour en même temps. Vous voyez ce personnage qui a une espèce de chemise qui pourrait être comme un vêtement mortuaire. Et puis la clé qui est la clé du salut pour ouvrir l'espace, mais elle est complètement emprisonnée dans les barbelés, complètement. Et puis le personnage jeune sur le côté, bon, sans expression, vraiment la solitude et l'impasse absolue. Ensuite, tout ça est magnifique, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur le site. Voilà, c'est Nussbaum avec sa nièce. Est-ce que vous la voyez bien ? 41. Ah oui, elle est superbe aussi, l'expression des deux personnages, et puis le journal, tempête sur l'Europe, les murs, la nuit, voyez la petite lumière à peine palpitante du réverbère. C'est vraiment un très très grand peintre. si vous voulez, passons au dernier. C'est vraiment un très grand peintre parce que on repère, moi, c'est ça qui me fascine. On repère des influences. On se dit oui, les expressionnistes allemands, oui, mais en même temps, ça ne rend pas compte de la façon dont il réassume complètement cela dans une figuration très personnelle. Et ici, c'est l'autoportrait au passeport juif, avec tous les détails. L'étoile jaune qu'il n'a jamais portée, et puis le Jude, quand même une fleur au-dessus du mur, là, et ce regard complètement traqué. Donc, on va s'arrêter là. Je vous renvoie au musée d'art et d'histoire, et je vous renvoie à des catalogues. C'est ça qui apprend à voir la peinture, c'est les catalogues. Alors, je passe, j'ai combien de temps encore ?
Normalement, le temps est écoulé.
Ah non, j'ai commencé un peu après.
Cinq grosses minutes.
Alors, Musitch, très rapidement, on va sacrifier Boltanski, c'est dommage. Musitch, dont je vous le disais, il a été déporté en 1944. Pour lui, la question de la légitimité s'est posée avec une acuité sans pareille. Alors, sur la question du témoignage, bon, je vous renvoie au catalogue, parce qu'il y a eu une très belle exposition sur Musitch, au livre de Claire, le conservateur, qui a été aussi conservateur du musée Picasso. Musitch a toujours dit que peindre, lui, ce qu'il avait peint et dessiné, c'était une nécessité, c'était pas un témoignage. Ça, c'est très clair. Je vous disais, le peintre ne répond pas à des impératifs intellectuels ou moraux. C'est, pour Musitch, une réponse de peintre à une situation énorme. C'est le mot qu'il emploie. Il n'arrête pas. C'était une situation énorme, énorme. Ces masses de cadavres, la neige, ces cadavres comme des brindilles. Et c'était beau, il dit. Une beauté tragique, complètement inédite, complètement nouvelle. Donc, une réponse de peintre dans la ligne de Goya, Schiele ou Kokoschka. C'est ce qui a été vu. Et il a pu voir comme il l'a vu, grâce à l'apprentissage, lui aussi, du regard, du fait qu'il était, lui aussi, un artiste, et que l'expérience et l'art se conjuguent mutuellement. C'est pas l'expérience seule qui fait l'artiste, c'est la façon dont il voit. Il a fait énormément, voilà, c'est très bien, on les montre, vous voyez ici, il a fait énormément de dessins. Ça, c'est après. Il a fait énormément de dessins à Dachau, avant la libération et au moment de la libération. Et ensuite, il les a enfouis et oubliés jusqu'aux années 70. Ça, c'est quand il a repris ses dessins. C'est dans la série « Nous ne sommes pas les derniers », avec, vous voyez, ce dôme, comme si la Terre... Là, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ce dôme, c'est une portion de la Terre, comme si la Terre ne portait plus maintenant que cette vision de ce cri et de cette protestation inhumaine. Non, mais ça ne fait rien, je vais les commenter. Voilà, alors voilà, ça c'est, vous voyez, ce sont les crayons du camp, avec l'amoncellement des cadavres, c'est ce qu'il dit, énorme. Vous voyez cette colline. Cette colline, et puis les cadavres dans les cercueils. On continue là aussi, quel dommage d'aller si vite. Et alors voilà ce que je voulais vous montrer. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vision structurante que lui a donnée Dachau, où il dit que pour lui, ça a été la plus grande école de peinture, c'est qu'il va peindre la nature. Ça, c'est les années, vous voyez, 60, 70. Il peint la nature... Ces collines, ces monceaux, ces courbes, et dans la gamme de couleurs qui sera celle de « Nous ne sommes pas les derniers ». Ce sont les formes dominantes que vous retrouvez chez Musitch, chez cet ébranlement en face de ces monceaux de cadavres. Voilà, transformés ici en paysage. Point de repère, c'est pas la peine, on n'y voit rien. Voilà. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous distinguez. Vous voyez, c'est une colline aussi. Vous voyez là le rapport entre ce qu'on vient de voir et la colline. Je crois que c'est un peu comme ça, le charnier. Voilà, on va s'arrêter pour Musitch sur cela. Donc, une œuvre bon, qui est reconnue maintenant, hein, c'est une œuvre culte, hein, dirons-nous, faire surgir l'invisible. Et dans toute la partie de la fin de la création de Musitsch, des autoportraits très nombreux de lui-même, avec sa femme Ida, ce sont des personnages comme des revenants. Ils sont comme s'ils sortaient de l'invisible. C'est le problème, les fantômes. Nous sommes tous des fantômes. Et on voit comment tout l'art de Musitsch, sous toutes les formes qu'il a prises, s'est vraiment complètement structuré par la vision du camp. Un homme sans territoire, etc. On en parlera une autre fois. Quelques mots sur Boltanski, juste. Boltanski, une jeunesse et une éducation, alors qui sont incroyables, par leur non-conformité. D'abord, l'expérience initiale. Il est très, très jeune, tout petit, Boltanski. Ils sont à Paris, menacés avec, disons, l'invasion allemande et puis la traque des Juifs. Et un soir, dans l'immeuble, les gens, dans l'immeuble où la famille Boltanski habite, les gens entendent un fracas de vaisselle, des cris, des jurons, etc. Et le lendemain, la mère dit « On a eu une dispute terrible, mon mari m'a quittée. » Elle a deux fils. Et en fait, le mari va passer toute l'occupation sous le plancher de la maison, à l'insu de tous. Alors la famille, c'est extraordinaire, un père allemand juif, une mère française, catholique, communiste, enfin, toutes les influences. Et Boltanski n'a jamais pu supporter l'école. Après la guerre, il va avec sa mère partout, parce qu'elle a du mal à se déplacer. Il l'a conduit dans les réunions militantes, il l'a conduit au musée. Et je vais terminer par quelques mots, simplement, sans qu'on puisse voir d'œuvre de Boltanski. Les obsessions majeures de Boltanski, au début, c'est la disparition. Mais seulement la disparition, les objets. Il fait des inventaires extrêmement précis d'objets, des listes. Et puis, la transformation perpétuelle de ce qu'on a sous les yeux. Je pense que l'art, je vous cite une phrase de lui, « Je pense que l'art est une tentative d'empêcher la mort, la fuite du temps. » Donc, son projet est un projet mémoriel, mais qui n'est pas lié à la Shoah. Et puis, la rencontre d'artistes, Pina Bausch, le ballet, la classe morte de Cantor, le théâtre, c'est un bouleversement très profond. Et ensuite, eh bien, il va peu à peu, intégrer lui-même l'expérience de la Shoah. Donc voilà, il a fait à partir du moment à la Salpêtrière. Et puis, je cite très simplement, j'avais pris des images, mais on ne les verra pas, le dernier projet que j'ai vu, que vous avez peut-être vu, dans sous la grande nef du Grand Palais, Monumenta, donc qui était des vêtements, des tas de vêtements absolument énormes, avec un bras mécanique qui puisait, qui reposait les vêtements, des vêtements partout, par terre, et une bande sonore absolument, absolument extraordinaire. Donc écoutez, comme je vous l'avais dit, on a quand même à peu près tenu notre propos. Je m'excuse pour les artistes que j'admire infiniment, mais je suis sûre que vous irez les regarder maintenant. Voilà.